Bonjour, mon nom est Tom Eden et je suis le réalisateur de la série « Gaspé au temps de la Deuxième Guerre mondiale » qui est une présentation du Berceau du Canada, rendue possible avec le support d'anciens combattants Canada et de la ville de Gaspé. Dans cet épisode, Fabien Sinette nous raconte le quotidien des citoyens de Gaspé. Des choses comme les blackouts, les restrictions sur les déplacements, les cartes d'enregistrement. Il nous parle aussi des gens qui gravitaient autour de la pointe Oara, de l'arrivée d'un sous-marin allemand qui s'est rendu à la fin de la guerre et qui a été amarré au Quai Carter, et bien sûr, le retour des fils de Gaspé qui avaient servi outre-mer.
La Défense nationale lance une vaste campagne publicitaire en posant des affiches un peu partout, dans des édifices publics, même sur des poteaux électriques à l'extérieur. Et puis, dans ces affiches de propagande-là, ben, ils disaient, ben là, soyez vigilants, l'ennemi peut apparaître. Et puis, en plus de ça, ils envoyaient aussi des circulaires dans les hôtels de ville, dans les presbytères des curés, et puis pour distribuer au monde. Puis là, ils ont décidé aussi d'équiper les magasins. Il y avait surtout Robin Jones et les magasins Davis, de masse à gaz, au cas qu'il y aurait eu des attaques à gaz. Parce qu'il y avait toujours eu une crainte, depuis le début de la guerre, en réalité, qu'à un moment donné, ils lancent du gaz, comme en la première guerre, 14-18. Fait qu'ils distribuaient des masses à gaz. Et puis, en tout cas, il y avait quand même la question des cartes d'enregistrement ont rentré en vigueur en 1940, où il fallait s'enregistrer. Si tu n'avais pas de carte d'enregistrement en 1941, il y avait quand même des postes de guette un peu partout, l'entrée. Si tu ne l'avais pas, ils pouvaient te mettre en prison. C'était quand même assez sévère, l'identification. Ce qui est arrivé, le blackout, c'est le ministère de la Défense nationale aussi, qui avait donné des formations à des civils pour faire le guet dans le village. C'est là que c'est en même temps là, qu'ils ont commencé le blackout. Ça veut dire que ces gens-là, les autres ne s'occupaient pas des cartes d'enregistrement. Ça, c'était des militaires qui faisaient ça. Mais ce groupe-là, les autres, c'était des civils. Ils donnaient une formation pour essayer de détecter l'ennemi. S'ils voyaient, par exemple, quelqu'un prendre des photos, ils n'avaient pas le droit de prendre de photos. Pas le droit de peindre non plus le port de mer, les artistes. Tout ça était surveillé. Et puis, boucher les fenêtres. Il fallait boucher les fenêtres là, avec des stores opaques. Mais il faut dire, on sortait de la crise économique. Il y avait des gens, même dans ce temps-là, c'est peut-être bizarre à dire aujourd'hui, mais qui n'avaient pas de moyens seulement d'acheter des stores. Alors, ils allaient au magasin acheter du papier goudronné noir. Puis ils mettaient ça dans les fenêtres. Mais il ne fallait pas qu'il y ait d'ouverture. Fait que ces gens-là, eux qui avaient cette formation-là, ben ils faisaient la guette tous les soirs. En partant de 42, il y a les trains, c'était la même chose. Trajet du train entre Gaspé et Nouvelle-Orléans. Parce que là, à un moment donné, ils ont dit, ben là, il peut y avoir danger d'espionnage. Il aurait pu aussi faire sauter les ponts. Ça aurait pu être dangereux, ça. Parce qu'on ne savait pas, nous autres, les idées des Allemands. Là. C'est correct, ils coulent des bateaux parce que les bateaux transportent de marchandises en Angleterre. Mais il peut y avoir d'autres idées d'attaquer les villages. Ça fait qu'il y a un règlement à l'État qu'il fallait qu'il n'y ait aucune lumière des locomotives. Et puis, l'intérieur des trains, pareil. La seule chose, c'était le cadran à vapeur qui avait juste une petite ouverture pour savoir le degré de vapeur. C'était des trains, hein? C'était à vapeur. Puis, à un moment donné, ça, il y avait un conducteur qui racontait l'histoire à propos de ça. Il dit, partant de Gaspé, là, pour aller à New Carlisle, il était nerveux. Il était nerveux. Il dit, là, surtout qu'il n'y avait pas de lumière, c'était difficile aussi. Il aurait pu avoir des obstacles sur la voie ferrée, il ne pouvait pas le voir. Et puis, il était nerveux, il dit, là, à un moment donné, il peut y avoir une explosion, il peut y avoir un pont qui est tombé. Fait que, comme il disait, là, son cœur s'arrêtait à Gaspé, puis il partait à débattre, à guérir à New Carlisle. Ça aurait dû être un stress terrible, ce genre-là. Ça. Quand le blackout est venu, ben, t'as eu toutes les consignes, hein, tous les avertissements à travers de tout ça. Là. C'est que il n'y avait pas de camion, il n'y avait pas d'auto sur la route. Au moment que l'obscurité venait, là, c'est là la sirène criait. Là. La sirène avertissait à tout le monde, plus personne des rues. Et puis de rester dans les maisons. Les seuls qui avaient le droit de circuler, c'était des véhicules militaires. Ça c'était tous les soirs, ça. Des gros réflecteurs, un qui est vers la croix, puis l'autre vers le monument des Vaves. Ah oui, ça éclairait une partie du village, ça, ces gros spots-là qu'il y avait là. Imagine-toi, étant qu'il a enlevé ça, c'était à l'obscurité complète, il n'y avait plus d'autres lumières. Il n'y avait plus de lumière de rue non plus, ça n'existe pas, on a tout enlevé les lumières de rue. Fait que t'avais là. Puis si tu voulais aller au magasin ou sortir avec une lampe de poche, une flashlight, c'est qu'il fallait que tu laisses juste une petite ouverture dans l'eau de la flashlight. Le reste, il fallait que tu aies la peinture en noir. Puis il fallait que tu la gardes à terre. Puis je me rappelle, j'allais au magasin avec mon père. Moi, je faisais exprès, je jouais avec ça, il me l'a maudit après moi. Il dit, le père, il m'enlevait la lampe de poche les mains. Fait que... Alors, c'était sévère partout. Hein. C'était vraiment une discipline énorme. Mais il fallait se soumettre. Hein. Et il y avait loué aussi, eux autres, là, un ancien garage. Puis ils gardaient un brain carrier dans ça. Et puis, c'était Georges Gérard de Gaspé qui était responsable, qui avait rentré dans la milice. Lui, c'était un mécanicien, puis l'entretien de ce brain carrier-là. Fait qu'il sortait avec ça un peu sur la pointe le soir ici. Là. C'était un genre de petit char d'assaut avec une mitrailleuse qui avait trois soldats, c'est ça, d'habitude, le Blake Hager. Et puis, ça fait qu'il faisait de la drill. Puis, il y avait toujours des activités qui se faisaient. Fait que c'était une présence militaire de plus, une protection, une centaine de protections. Fait qu'ils ont bien fait le job, les fusils solaires, par exemple. Puis t'avais aussi, à un moment donné, mais c'est les autres, c'était pas le fusil Saint-Laurent. Les autres, c'était des soldats qui venaient de la base navale. Et ils arrivaient des fois, là, sans avertissement, ils arrivaient au quai des Vestes comme ils faisaient une invasion ou une livraison. Les autres, ils simulaient, là, au cas que les Allemands ont repris, par exemple, le village. Et puis, les autres, ils simulaient, là, de voir où ils étaient. Là, le monde n'avait plus le droit de sortir de leur maison. Là, ils cognaient à la porte, ils disaient « bon, ta porte », puis là, ils mettaient des sentinelles un peu partout. Il y a des gens qui étaient frayés à mort avec ça, ils avaient peur. Mais c'était des manœuvres, hein. Ça m'intriguait, je me demandais toujours quand est-ce la prochaine fois qu'ils vont venir.
Gaspé, au temps de la Deuxième Guerre mondiale, était un terrain de jeu quand même assez particulier. Et le jeune Fabien a fait une observation qu'il a confirmée quelques décennies plus tard.
Quand j'arrivais de l'école, je descendais à ce qu'on appelait la côte Robin. Et puis, il y avait une sentinelle pas tellement loin, là, au pied de la côte, là. Et puis, certains après-midi, j'arrivais, puis il y avait un hibou qui était perché sur le pignon. Fait que... Puis d'autres journées, je passais, puis là, je dis, ça m'intriguait toujours voir un hibou. Ah, il était pas là. J'ai dit, là, il est parti. Ça a été envoyé. Ah, une autre journée, il était là. 2001, ça, hier, dimanche après-midi, un monsieur qui rentre là, d'un certain âge, qui était un ancien marin, qui avait été stationné ici à Gaspé. Et puis, il s'est identifié, il vient de la Légion canadienne. Puis, ils m'ont dit, peut-être serait intéressé à me voir, puis jaser un peu, parce que je pense, il dit, vous avez un projet en allant de quelque sorte, là. Puis, j'ai dit, oui. Fait que là, il s'est identifié. Et puis, là, il m'a dit qu'il lui avait arrivé sur le premier navire, le Lynx, à Gaspé. Et puis, il était stationné à la première base navale, comme de raison. Et puis, il était un qui faisait la guette, lui aussi. Puis, j'ai dit, là, on a aujourd'hui toute l'après-midi de différentes choses. Moi, j'ai pris bien des notes, lui, il m'en a raconté toutes les sortes. Hein. Alors, j'ai dit, moi, là, c'est peut-être un souvenir d'enfance, je ne sais pas, là. Mais j'ai dit, tu vas peut-être me trouver fou un peu, là. Mais j'ai dit, tant que j'allais à l'école, moi, j'étais petit gars, puis j'avais 9-10 ans dans le temps, puis Je lui ai dit, je passais devant un sentinelle, là, puis il y avait un hibou perché sur un pignon. Je lui ai dit, des journées, il n'était pas là. Là, il souriait. Hein? Et il dit oui, il dit c'est vrai. C'était un de mes chums, il dit qu'il avait ramassé ça de ce qu'il appelait Pick Street. Il y avait une rue qui a appelé Pick Street en arrière, qui avait une aile brisée. Il a soigné, puis il est devenu sa mascotte. Fait qu'il dit, quand c'était lui qui faisait la garde, mais c'est sûr que l'hibou était là, la journée, tu voyais pas personne parce que c'était pas lui. Il dit, c'était ça, mais il a vraiment existé. Mais il dit, c'est un de mes grands chums. Il dit, je téléphone suivant, il vit encore, il reste en Ontario, il vit encore. Fait que quelques temps après ça, il avait contacté, il m'a envoyé une photo du hibou. Ça fait que ma mémoire était bonne, il y avait vraiment un hibou. En tout cas, ce marin-là, là, c'est lui qu'on a une découpe là, à base navale. Là. J'ai fait une découpe de lui. Là. J'ai resté en relation avec lui là, pendant quelques années. Là. On s'écrivait.
Avec autant de jeunes militaires en ville, il est certain que quelques petits écarts de conduite étaient prévisibles.
Il s'appelait Paul Bélanger. Ça lui racontait à un moment donné. Il était en sable un jour de Noël. Personne avait l'intention de fêter Noël. Fait qu'il a dit à ses chums, il dit, on devra fêter Noël à notre façon, nous autres. Les autres, et lui, je ne sais pas, je pense qu'il était au Pérou, je pense. Quelque part là, il avait saisi un bateau, en tous les cas, allemand, puis il avait remonté le drapeau, puis il avait toujours gardé le drapeau nazi. Fait que là, ils ont dit, ouais, ça sera le fun, tu sais, peut-être mettre de l'animation un peu, là, en bas, sur la pointe, là. Fait qu'ils sont allés, ils ont coupé un petit arbre, puis là, ils ont pris le drapeau, puis ils l'ont planté. Puis ça se trouvait le jour de Noël. Et puis, le jour de Noël, comme des raisons, ben, t'avais la messe, là, t'avais une messe de minuit, il y avait déjà une messe le jour de Noël. Puis ça s'est passé durant que les gens étaient à la messe. Tant qu'ils ont sorti de l'église, ils ont vu le drapeau nazi. Ils ont dit, oh, maudit, les Allemands nous ont envahis, on n'a pas eu connaissance, on a été pris dans l'église. Là, on est mal pris. Là, ils étaient sûrs que c'était nazi. Fait qu'ils ont été reprimandés, ils ont fait de prison pour ça. Mais il a même mis un peu de gaieté au jour de Noël pour ces gens-là, tu sais.
Cécile Godfrey, une jeune de seulement 16 ans, faisait partie du quotidien des gens de Gaspé au temps de la Deuxième Guerre mondiale. Elle avait la tâche, souvent ingrate, de livrer des télégrammes. Le père de Fabien, Michael, a au moins une occasion dû faire appel au talent de l'acteur de son fils de 12 ans lorsqu'un télégramme arriva à la cordonnerie.
Il y avait une jeune télégraphiste, là, on avait juste 16 ans, tant qu'elle a été engagée par les autres, fait la livraison des télégrammes. Et puis, il fallait qu'elle lui donne, il faut qu'elle soit identifiée, puis l'uniforme d'une télégraphiste, dans le temps, ben, c'était comme une uniforme des femmes militaires, là, mais seulement c'était gris foncé, puis il fallait porter le képi, l'appareil. Pourtant, en 44, elle, sa fonction était plus sévère, parce que après l'invasion de Normandie, là, il y avait beaucoup de Gaspésiens là, qui sont fait tuer, beaucoup qui sont fait blesser aussi. Mais il fallait qu'elle livre ces télégrammes-là à la maison, leur faire comprendre que... Mais elle ne pouvait pas divulguer ce qu'il y avait sur un télégramme. Mais tant que les gens la voyaient arriver avec un télégramme, soit qu'il était mort ou blessé. Puis je me rappelle, ma mère l'avait averti. Elle dit, si jamais que tu as un télégramme qui concerne mes fils, parce qu'il y avait deux fils dans ce temps-là de l'armée, elle dit, emporte-moi pas ça à la maison. Elle dit, je le donnerai à mon père, sa cordonnerie. Elle ne voulait pas subir le choc, probablement, de ça non plus. Mais par contre, tant que le premier de mes frères qui s'est fait blesser, lui, s'est fait blesser à l'entraînement, alors, c'était pas par télégramme. À ce moment-là, c'est un officier qui est arrivé à la maison, il a cogné. Et puis, il a livré en main que c'était à Léonard qui s'avait fait blesser, mais qui était vivant, mais était dans un hôpital militaire. Mais tant que ça s'est venu à mon autre frère, Mathias, lui, c'était plus loin, lui, il s'est fait blesser en Hollande. Et puis, là, c'était vraiment un télégramme officiel, fait qu'elle l'a livré à mon père. Fait que mon père, ben, il savait pas lire. Puis elle avait pas le droit de lire les télégrammes. C'est ça la question. Donc, mon père dit, mais lire, elle dit, j'ai pas le droit. Je peux pas. Fait que moi, quand j'arrivais, elle me dit, l'école, j'arrêtais toujours prendre mon père pour les dîner. C'était sur ma route. Puis j'arrivais cette journée-là, il dit, je sais pas, j'ai peut-être des mauvaises nouvelles. Et il dit, la messagère m'a envoyé un télégramme, il dit, je l'ai mis là, sur le comptoir, si tu veux le lire. Ça fait que, ouais, j'ai dit, je vais le lire. Ça fait que, mais il ne s'avait pas fait tuer, mais il s'avait fait blesser. Puis, il était dans un hôpital. Puis, fait que c'était quand même pas pire. Fait que, ça arrivait deux fois, ça arrivait encore. La même histoire s'est répétée après ça, en mars, en Allemagne. Fait que, mais elle avait une tâche difficile là, annoncée. Là, elle savait ce qu'il y avait dans le télégramme, mais elle ne pouvait pas le divulguer, mais elle savait. Là.
Dans les jours qui ont suivi la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la visite inattendue d'un trophée de guerre au port de Gaspé sema tout un émoi dans le village. Une chance que le jeune Fabien, maintenant âgé de 13 ans, n'allait pas manquer.
Fait que j'étais sur le pont de Gaspé le soir, on était trois jeunes, nous autres. Puis, parce qu'on traversait souvent le soir de l'autre côté, parce que on aimait voir le train rentrer. On s'installait dans un boxcar, là, puis on faisait des planifications, nous autres, des jeunes. Là. On bouleversait le monde, là, à cette époque-là. Il y avait mon cousin qui était toujours mon bras droit, là, Raymond Sinette, puis l'autre, c'est Alexandre Bernier. Et puis, là, on voit ça s'approcher, parce que le sous-marin, c'était bas, hein, bateau de naval, c'était quand même assez haut. Puis je trouvais ça drôle, puis il y avait une Fairmiles qui escortait aussi. Ça arrivait tout vers le pont, parce que c'était un pont Lévis, hein, ça ouvrait. Puis là, tant que ça a passé, là, on a vu là, que c'était un sous-marin. Puis le capitaine du sous-marin, il était sur le poste d'observation, là. Il était installé là, sur la tourelle, là. Et puis, là, ça s'en allait vers Gaspé. Là, on s'est dépêché à aller voir, là. C'est ça m'est arrivé. Fait que là, ils nous ont dit que... J'entendais les gens qui parlaient, là. Ils ne s'en pas adressé directement à nous autres. Que le lendemain, ce sous-marin-là, il était... le public pouvait aller le visiter. Fait qu'on s'est dit, ben, demain, on va être les premiers à aller visiter le sous-marin allemand. Fait qu'imagine-toi, là. On avait tellement entendu parler, tellement eu connaissance de tout ce qui s'est passé... On en envoyait un réel, là, c'était pas un film, hein? C'est que j'ai descendu. Et puis, ça sentait mauvais. Imagine-toi, le pétrole, puis ça sentait aussi la saleté. Ces gens-là se lavaient pas tous les jours, là. Tu sais, t'avais quand même 50, 60 personnes, là. Le fait que c'était macabre, c'était sombre. Hein? C'est sûr, tu n'avais pas de fenêtre, hein? Tu avais des petites lumières. Alors, ici, c'est un passage. Hein? Et puis là, j'ai vu où les gens. Il y avait encore des torpilles là-bas. Ils étaient installés. Il y avait des gens qui couchaient par-dessus les torpilles dans des hamacs. Il manquait d'espace. Hein? Fait que tu avais des torpilles en avant, tu en avais en arrière. Puis ces gens-là, ils couchaient pas toutes, mais il y en avait plusieurs par-dessus les torpilles, ben, il manque d'espace, là. Mais c'était un fouillis, là, épouvantable, là. C'était beaucoup de machinerie aussi, de choses techniques, hein. Parce qu'un sous-marin, ça demande quand même... c'est des moteurs, hein, puis là, on a vu c'était quoi un périscope, là. Tu sais, vraiment, là. Et ça fait qu'on voyait ça dans des films, on n'avait jamais vu un vrai. Là. Je me disais toujours comment ces gens-là peuvent vivre dans un seul petit espace obscur, juste des petites lumières d'un passage. C'est long, là. Sous-marin, c'est long, là. Fait que, non, c'était pas... Non, mais j'étais content de voir un sous-marin quand même, là. Je pouvais me vanter, je disais aux autres jeunes, ben, moi, j'étais voir le sous-marin, tu sais. Les autres, ils disaient, oui, on l'a vu, mais il n'avait pas descendu dedans. Là, le sous-marin lui-même, là, il s'est accosté au ce qu'on appelait le Cape Carter. Aujourd'hui, on voit les vestiges encore, là. Il y a des pilotis qui sortent encore, là, sur la plage, là. C'est exactement là, là. C'est juste au tournant, quand tu vas au bout de la promenade, puis tu retournes vers l'autre promenade, là. C'est là que le quai était. Alors, c'est là que le sous-marin était. Il est resté une semaine, là.
La gare de train était le théâtre de nombreuses scènes émouvantes en 1945, avec le retour des soldats de Gaspé d'outre-mer. Bien qu'il y ait eu plusieurs retrouvailles heureuses, c'était clair que la guerre avait entraîné des coûts énormes, des coûts payés en grande partie par les jeunes.
Partant de 45 et 46, ben, c'était l'arrivée des militaires, il y en a d'outre-mer, là. Fait que là, le train, le soir, ben, c'était chargé de militaires. C'est incroyable, les gens, pas juste de Gaspé même, mais c'est sûr que le train desservait quand même les villages autour. Le nombre de militaires qui arrivaient de la guerre, là, c'était pas croyable. Là. Fait que puis nous autres, on aimait toujours aller au train le soir, notre groupe, là. Mais là, on allait pour d'autres raisons de voir tous ces militaires-là. Puis il y en avait quand même, je m'en rappelais, de leur visage, quand même, quand ils ont parti pour la guerre, malgré que la guerre déclarée, j'avais 7 ans, là. Mais je me rappelais des visages, quand même, un tel, ah, ben lui, là, il s'appelle un tel, puis... Fait que dans ces temps, là, il y en a qui arrivaient avec des graves blessures aussi, hein, ils arrivaient en béquille, les jambes coupées, d'autres, c'est des bras. D'autres, ils avaient les cellules vides aussi, là, hein, c'est le champ de bataille. On voyait là, le résultat de cette guerre-là, c'est que ça avait fait à nos citoyens, à nous autres, à Gaspé, hein, notre jeunesse. Ça, on trouvait ça difficile. Moi, j'avais quand même deux frères qui étaient partis. Là. Il y en a un qui était parti depuis 1940. L'autre s'avait fait blesser bien, au début de 1944. Et puis... Fait que là, le soir, ben c'est sûr qu'on allait au train, puis essayer de voir. Puis finalement, en tous les cas, on a reçu un télégramme que mon frère Mathias arriva, lui, la fête du travail, premier lundi de la fête du travail, septembre, sur le train. Fait qu'imagine-toi, on était contents, ça faisait 5 ans qu'il était parti. Fait qu'on s'est rendu là. Moi et mon père, ma mère, elle a resté à la maison, elle dit, je vais préparer un bon souper, puis c'est une réunion, tu sais. Fait que, on est arrivé au train, il y avait un paquet de militaires. Bon, tu sais, septembre, c'était peut-être le gros mois, septembre, octobre, là. Et puis là, on l'a pas trouvé, il était pas là, dans la gang. Mais il y avait plusieurs wagons. Ça fait que... Mais là, j'ai dit, il me semble au loin, là, il me semble que je vois un militaire. Je vais aller voir, j'ai dit à mon père, puis j'en reviendrai. J'arrive là, je vois un militaire qui était là avec son sac à côté. Puis... Fait que je le regarde. Lui, il me regarde aussi, je le connais pas. Fait que je vais retourner voir mon père, j'ai dit, non, là-bas, mais j'ai dit, je le connais pas, si c'est pas lui. Mais tu sais... 5 ans, là, ça change. Puis moi, j'avais grandi aussi, là. Tu sais, j'avais vieilli, là. Hein. Fait que, ben, mon père dit, bon, je vais aller le voir pareil. Je trouve ça drôle qu'il est tout seul là-bas. Puis mon père l'a reconnu, puis il a reconnu mon père aussi. Là. Ça fait que c'était lui. Fait que, imagine-toi, on était content de l'accueillir. Mais là, on voyait que c'était plus le même homme, hein. Tu sais, il avait subi la guerre, les blessures... Puis tant qu'il est arrivé à la maison, là, il parlait pas beaucoup. Là, il a demandé, il dit, « Well, Léonard, son frère. » Il avait, on dirait qu'il était craintif de poser la question. Ce que je me rappelle, ma mère lui a dit, elle dit, « Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de te dire. » Elle dit, « Il est dans un hôpital militaire à l'heure actuelle. » Elle dit, « Ça fait déjà quand même un an qu'il est là. » Mais ce qu'il y a eu, là, il a expliqué qu'il y avait une grenade de phosphore qui avait explosé des mains. Et puis, il était gravement brûlé, les deux mains, les jambes. Puis il était encore là, encore. Enfin, mais c'était pas... Il parlait pas beaucoup. Mais les rues étaient pleines de ces gens-là qui retournaient. C'était quand même plaisant de les voir retourner, hein.
Ceci était le quatrième et dernier épisode de la série Gaspé au temps de la Deuxième Guerre mondiale. Une présentation du Berceau du Canada, rendue possible avec la participation d'anciens combattants Canada et de la ville de Gaspé.